Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée à la menace djihadiste en Asie centrale. La centralité de la région Afghanistan-Pakistan au sein de la sphère djihadiste internationale n'est pas nouvelle. Quelle est aujourd'hui la réalité de la menace d'une expansion dans la région? Dans quelle mesure l'organisation État islamique est-elle intéressée par l'Afghanistan et le Pakistan? Et au-delà, dans les pays de l'ancienne sphère soviétique, de l'Ouzbékistan au Turkménistan, en passant par le Kazakhstan, le Tadjikistan et le Kyrgyzstan, état des lieux de la situation alors que 50 à 60% des militants de Daesh seraient issus d'Asie centrale et du Nord-Caucase. Nos invités, Jean-Luc Racine, directeur de recherche au CNRS, bonjour.
Bonjour.
En duplex depuis Bruxelles, Nicolas Gosset, chargé de recherche Eurasie au Centre d'études de sécurité et défense de l'Institut Royal de Défense à Bruxelles, bonjour.
Bonjour Madame Chatin.
Et par téléphone depuis Bahreïn, Clément Terme, chercheur à l'Institut International d'études stratégiques, bonjour.
Bonjour.
L'été dernier a été marqué par un certain nombre d'événements qui témoignent d'une situation pour le moins fébrile. 80 morts à Kaboul après l'attaque revendiquée par l'État islamique. La mort du chef de l'État islamique pour l'Afghanistan et le Pakistan. L'attentat suicide contre l'ambassade chinoise au Kyrgyzstan. Une réponse à la décision de Pékin d'intégrer la coalition contre Daesh. Voilà quelques exemples. Quand on entend le nom État islamique, on pense spontanément Moyen-Orient et Afrique du Nord. Il est clair que l'organisation terroriste a aussi plus qu'un œil sur les anciennes républiques soviétiques et en Afghanistan et au Pakistan, Nicolas Gosset.
C'est vrai que l'Asie centrale est entrée sur la carte de Daesh, en tout cas par une revendication officielle à partir de l'année 2015. Mais pour commencer d'emblée, on peut dire que cette zone n'est pas une priorité absolue pour le groupe. Hein. Daesh est d'abord marqué par le maintien de son entité territoriale en Syrie et en Irak. Il cherche à attirer des combattants étrangers de l'ensemble des pays du monde arabo-musulman et au-delà, mais on peut questionner en tout cas l'importance que revêt la transformation de la zone en base arrière de combat pour Daesh. Hein. Pour le moment, il s'agit essentiellement d'un réservoir de combattants irréguliers étrangers pour son terrain premier en Syrie et en Irak.
Clément Terme, vous partagez ?
Oui, tout à fait. Je pense même que la Russie et la Chine ont tendance à exagérer la menace de Daesh en Asie centrale pour justifier à la fois la répression des États au niveau de la région, mais aussi pour justifier leur action au Moyen-Orient et en particulier leur soutien à l'État syrien, par exemple, ce qui est le cas de la Russie, puisqu'on a souvent des sources russes qui nous disent on va vers un transfert massif des djihadistes de Syrie et d'Irak vers l'Asie centrale et l'Afghanistan. Donc il y a eu une vision globale de la menace djihadiste qui fait que finalement la Russie et la Chine, qui sont nos principales sources ici en Occident pour avoir des informations sur ces questions, ont tendance à exagérer cette menace.
Alors quand on avance le chiffre de 50 à 60%, comme je le disais en introduction, de militants de l'État islamique qui seraient issus d'Asie centrale et du Nord-Caucase, comment prendre cette information, Nicolas Gosset, Clément Terme?
Bah, écoutez, madame, moi, je n'ai pas la source de cette information. Il faut dire d'emblée qu'on voit déjà la difficulté qu'on a dans les démocraties européennes à estimer le nombre de manière précise de gens qui sont enrôlés auprès de Daesh. Alors, quand on parle des républiques d'Asie centrale, de l'Afghanistan et du Pakistan, on a encore un vernis de difficulté qui est bien plus important. Clément le soulignait tout à fait, on a non seulement un intérêt des grandes puissances extérieures, mais aussi des gouvernements locaux à magnifier d'une certaine manière la menace que le groupe État islamique représente aujourd'hui, parce que pour eux, il y a un effet d'opportunité, soyons clairs. On voit clairement l'importance que revêt Daesh, sa menace, dans les opinions publiques et les préoccupations politiques des États occidentaux. Pour les États d'Asie centrale qui s'inquiétaient énormément du reflux des troupes étrangères d'Afghanistan, disons que ça fournit un argument d'importance, de mise en valeur sur la scène internationale qu'il ne faut pas négliger. Clément soulignait, je pense à juste titre, et c'est pour moi un point fort important, l'embrayage qu'il y a par rapport au discours russe de magnifier cette menace, qui est aussi un moyen pour Moscou de maintenir son importance dans le champ sécuritaire en Asie centrale. Et pour bouger plus au sud, en Afghanistan, à la fin 2014, donc fin du mandat de l'ISAF, la nouvelle opération réduite conduite de l'OTAN qui commence, on a vu l'intensité et l'énergie qu'ont mis les autorités afghanes, notamment sous le nouveau président Rani, à magnifier aussi cette menace pour dire « Ok, regardez, l'État islamique grandit chez nous, la menace est quasiment existentielle, ne nous laissez pas tomber ». Continuez à nous soutenir, l'Afghanistan reste un centre du djihad international. Et là, si on se base sur une revue de littérature, on se rend compte que c'est largement surestimé. Le nombre de combattants étrangers d'origine centra-asiatique que vous donniez est invérifiable. Il est basé essentiellement sur des sources sécuritaires russes, centra-asiatiques. On a une grande variété de chiffres qui sont donnés par rapport au nombre de militants centra-asiatiques en Irak et en Syrie. Et qui est généralement, si on se base sur l'idée qu'il y a 20 à 30 000 combattants de Daesh, ça me semble invraisemblable de dire qu'il serait entre 15 et 20 000 centra-asiatiques. On sait que le premier contingent est clairement des pays du MENA, l'Afrique du Nord, la Tunisie, la Jordanie, bien devant les pays européens, la Russie et les républiques d'Asie centrale.
Alors, je rebondis sur l'Afghanistan, Jean-Luc Racine, l'Afghanistan, centre du djihad international. Dans quelle mesure, finalement, l'État islamique, l'organisation État islamique est-elle intéressée par l'Afghanistan ?
Je crois qu'il faut prendre le problème à l'envers. C'est-à-dire qu'il faut faire une distinction entre le projet de l'État islamique en tant que mouvement sous la tutelle d'al-Baghdadi, voulant définir, donc contrairement à ce qu'a été la tradition d'Al-Qaïda, un califat autoproclamé appuyé sur un territoire. Ça, c'est une chose. Indépendamment de ça, mais évidemment s'y référant, sont les divers mouvements d'inspiration djihadiste, dans certains cas salafiste, basés soit en Asie centrale au sens strict du terme, soit en Afghanistan, Pakistan, qui ont été animés, et là je parle plutôt du cas afghan et pakistanais, par de multiples scissions, et certaines de ces factions ont proclamé leur allégeance à Daesh, mais à partir d'une initiative locale. Cela donnait un certain prestige. Certains de ces groupes, d'ailleurs, avaient déjà pour emblème un drapeau noir. Donc, il était facile de passer de leur drapeau noir traditionnel au drapeau noir de Daesh, si j'ose dire. Et donc, on a beaucoup moins des succursales, des filiales qui seraient planifiées depuis le Moyen-Orient que une floraison de groupes locaux parfois très modestes. Ça peut être des factions de factions au sein des talibans pakistanais. Ça peut être des commandants locaux des talibans afghans en conflit avec tel ou tel groupe qui se sont revendiqués de Daesh. Le fait le plus marquant aujourd'hui, et c'est vrai qu'on peut dire, comme il a été dit tout à l'heure, que les autorités, après avoir d'abord nié la présence de Daesh, ce fut le cas en Afghanistan comme ce fut le cas au Pakistan, ont tendance aujourd'hui à en rajouter. Celui qui en rajoute le plus, c'est l'un des vice-présidents de l'Afghanistan, le vieux chef de guerre Dostum, qui il y a encore quelques jours, en visite dans les provinces voisines du Turkménistan, a annoncé qu'il y allait avoir 7500, je le cite avec tous les guillemets d'usage, 7500 combattants de Daesh qui allaient venir se déployer pour menacer l'Afghanistan, avec parmi eux, je le cite, des Ouzbeks, des Tadjiks, des Tchétchènes, des Syriens, des Irakiens et des Libyens. Qui peut vérifier ça? Ce qu'on croit savoir, c'est que depuis 2014-2015, les groupes qui se revendiquent de Daesh en Afghanistan, c'est 1000 à 2000 personnes qui ne sont pas tous des combattants. Il y a une base géographique connue, qui est la province de Nangarhar à la frontière avec le Pakistan, et historiquement, le noyau dur de ces groupes, ce sont des talibans pakistanais en rupture de ban, qui ont franchi la frontière afghano-pakistanaise quand l'armée pakistanaise, à partir de juin 2014, a commencé à envoyer ses troupes jusqu'au bout du bout des zones tribales, y compris au Nord-Waziristan. Et ce qu'on a observé, parce que là, on bénéficie d'études fines de terrain par des groupes d'observateurs basés en Afghanistan, c'est que il y a eu une diffusion de ces groupes se revendiquant de Daesh dans des provinces aussi bien proches de l'Iran, le Helmand dans le sud, certaines provinces du nord et bien sûr des provinces de l'est. Mais le seul bastion qui a été d'ailleurs ébranlé sérieusement à la fois par les talibans afghans, qui sont des ennemis déclarés de Daesh, et les forces gouvernementales appuyées par les forces spéciales et les drones américains, pour réduire la présence de Daesh, reste évidemment la question de savoir ce que donnera la décision prise par le mouvement islamique d'Ouzbékistan de se rallier à Daesh, quand on sait que ce mouvement islamique d'Ouzbékistan a eu historiquement de longue date des combattants dans les zones tribales pakistanaises qui se sont repliés en Afghanistan et des combattants épaulant traditionnellement les talibans afghans. Donc le tableau est finalement très complexe.
Très complexe et voilà, c'est ce sur quoi je souhaitais rebondir. D'abord, on voit une très forte porosité entre tous les uns et les autres. Vous avez donné beaucoup d'éléments, Jean-Luc Racine, sur lesquels je souhaiterais peut-être qu'on passe un certain temps. Cette allégeance à Daesh d'un certain nombre de groupuscules en Afghanistan, à quoi correspond-elle précisément? Alors, vous parlez pour certains de rupture de banc avec les talibans. On peut donc supposer un certain opportunisme. Et au-delà de cela, à quoi correspond cette exagération des uns et des autres du phénomène Daesh en Asie centrale, en Afghanistan et au Pakistan? Pour l'Afghanistan, on a bien compris que de ce fait, peut-être les Américains avaient décidé de maintenir un nombre plus important de troupes. Qui souhaite répondre, Nicolas Gosset?
Disons que l'instrumentalisation de la rhétorique de la menace islamique, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la tradition politique des États indépendants d'Asie centrale depuis quasiment l'origine. Moi, je me souviens des premières années où j'ai commencé à m'intéresser à l'Asie centrale, on avait déjà ce discours qu'on a vu aussi dans une certaine mesure avec Ben Ali en Tunisie et dans d'autres États du monde arabe, où finalement c'est l'argumentation de « si ce n'est pas nous, c'est le chaos ». Alors, il est certain qu'au fil du temps et de la répression s'approfondissant au fil du temps, notamment en Ouzbékistan, mais aussi au Tadjikistan, en République kirghize, on a vu un monde clandestin de militants centra-asiatiques s'exporter dans les théâtres du djihad voisin, d'abord au Tadjikistan, ensuite en Afghanistan. Et c'est là que je rejoins complètement Jean-Luc Racine sur l'analyse qu'il fait de la cooption de l'étiquette Daesh par des factions à l'intérieur de l'insurrection afghane et qui, surtout, comme il le soulignait, de la nébuleuse du djihad pakistanais. Et Jean-Luc Racine appuyait la dimension du mouvement islamiste d'Ouzbékistan, qui est effectivement un cas intéressant, puisqu'à travers ce groupe, on peut retracer toute l'histoire de l'islam radical d'Asie centrale, depuis les origines au milieu des années 90, jusqu'à l'internationalisation d'un groupe qui n'est plus qu'ouzbek que dans une dimension assez résiduelle. On sait que ce mouvement est une sorte de coupole qui regroupe d'abord dans les zones tribales pakistanaises, au Waziristan, aussi présent dans le nord de l'Afghanistan, un grand nombre de combattants étrangers, des Tchétchènes, des Ouzbeks, des Tadjiks et d'autres composantes, surtout des Tchétchènes, Jean-Luc Racine le soulignait. Et donc, on a eu, avec le mouvement islamiste d'Ouzbékistan, une affiliation, une cooption, l'étiquette Daesh qui s'est fait par un effet de champ d'opportunisme en fait. Donc c'est au moment où ce mouvement a été poussé hors du nord Waziristan par les opérations de l'armée pakistanaise où ils ont repassé la frontière très poreuse avec l'Afghanistan. Ils ont essaimé d'abord dans ces provinces de l'Est dont Jean-Luc citait le nom d'une qui est notable en matière de Daesh, c'est Nangarhar effectivement, aussi dans le nord autour de Kunduz. Et donc ce mouvement, il s'est inscrit en porte-à-faux et en désaccord par rapport à toute la lutte de succession qui a eu lieu dans le mouvement des talibans afghans à partir de l'été 2015. On se souvient que en 2015, les autorités afghanes publient ce communiqué d'une nouvelle que visiblement ils savaient depuis assez longtemps, c'est-à-dire la confirmation de la mort de Mollah Omar. Et puis on a eu des luttes intestines à l'intérieur du mouvement pour la succession. Et à ce moment-là, il y a eu un désaccord désaccord entre certains commandants du mouvement islamique d'Ouzbékistan, d'autres factions comme Jean-Luc le signalait, et ces commandants ont saisi l'étendard de Daesh comme une manière d'exister et de se redonner une importance dans la lutte en cours. Une dimension qui est importante, Jean-Luc Racine soulignait l'antagonisme très fort qui existe entre les talibans canal historique, je dirais, les talibans de Kandahar, la Ketashura, comme on disait pendant assez longtemps, et Daesh, parce qu'en fait on est dans une dimension qui, même du point de vue théologique, de la légitimation religieuse, est fondamentalement différente. Les talibans sont un mouvement qui est ancré dans l'islam hanafi d'Asie centrale et d'Afghanistan, dans une forme scripturaliste, fondamentaliste poussé à l'extrême, ce qui n'est pas du tout le cas de Daesh. Daesh est un mouvement qui est fondamentalement salafiste, qui est basé sur une idéologie qu'on appelle le takfirisme, c'est-à-dire tous nos opposants, tout qui n'est pas nous, est un kafir, est un apostat. Et donc ça, c'est une dimension qui est fondamentalement différente du mouvement taliban, dans la mesure où Daesh revendique la suprématie sur tous les autres combattants de l'islam radical, de l'islam militant. Finalement, il y a cette idée qu'ils sont supérieurs à tous les autres. Et donc ça, c'est une idée qui, pour le mouvement du djihad afghan conduit par les talibans, qui est d'abord un djihad national, ancré dans les frontières du Pakistan, il est impensable de s'assujettir au projet et à l'idéologie de Daesh. Et ça crée effectivement une résistance structurelle fondamentale à l'emprise de Daesh sur le mouvement des talibans afghans, au-delà, comme le soulignait Jean-Luc Racine, de la factionnalisation et des luttes de pouvoir de certains commandants locaux, de certaines factions ou sous-factions, comme il le disait, de se donner une légitimité, une importance autre en hissant le pavillon de Daesh.
Alors, je vais laisser la parole à Clément Terme, un commentaire sur ce que vient de dire Nicolas Gosset, et la question qui viendra ensuite, peut-être pour démarrer la deuxième partie de l'émission, à savoir si finalement la question Daesh en Afghanistan ne va pas contribuer à pousser les talibans, en tout cas une sorte de réconciliation. Ce sera peut-être pour tout à l'heure, Jean-Luc Racine. Clément Terme.
Oui, donc sur la question de la porosité des groupes, je pense qu'il faut s'intéresser aux causes de la radicalisation. Est-ce que c'est des causes socio-économiques? On voit au Tadjikistan, par exemple, le taux de pauvreté, l'absence de perspective avec l'effondrement de l'économie russe. Donc on voit aussi des difficultés à ce niveau-là, mais c'est pas la seule cause. Donc il y a aussi la question de la nature des États, le fait que ce sont des États autoritaires qui excluent le religieux du champ politique. On a eu une interdiction d'un parti islamiste au Tadjikistan, donc qui pousse aussi les militants à investir un champ qui n'est plus le champ de la politique légale. Donc là, il y a un ensemble de paramètres qu'il faut prendre en considération et qui, au-delà de la question de Daesh, pose la question de l'extrémisme islamiste dans la grande Asie centrale. Ensuite, sur la question des relations et des différences entre les talibans et Daesh, je pense qu'il y a un point important qu'il faut ajouter, c'est la dimension anti-chiite. On voit aujourd'hui que les talibans sont en train de tisser des liens avec l'ensemble des acteurs de la région et que Daesh est dans une surenchère anti-chiite. On l'avait vu en Irak dans les années 2000, on le voit en Afghanistan aujourd'hui avec des attentats à Kaboul contre la minorité Hazara. Donc ça, c'est vraiment un phénomène nouveau, important et inquiétant parce que les Hazara étaient les grands bénéficiaires de l'intervention américaine après 2001. Donc là, il y a peut-être aussi une remise en cause des équilibres politiques à l'intérieur de l'Afghanistan. Enfin, je dirais que le dernier point est dans la perspective du retrait des États-Unis de la région. Bien sûr que la question instrumentalisée par les autorités afghanes de Daesh pour faire rester les Américains est un élément important. Mais aussi, on peut se demander aussi si la perception par une partie de la population afghane de la présence militaire étrangère comme une force d'occupation n'est pas aussi un moteur de radicalisation et de développement pour Daesh. L'échec de ces interventions militaires pose aussi la question de la création d'un terreau djihadiste local qui n'existait pas auparavant. On a fait la guerre en Afghanistan pour éradiquer les talibans et on voit aujourd'hui que Daesh a émergé. Peut-être c'est une question qui ne s'inscrira pas dans la longue durée de l'histoire afghane, mais en tout cas c'est un phénomène inquiétant avec des ramifications au Pakistan, en Inde et au Bangladesh également. Donc c'est vrai que cette émergence d'une nébuleuse de Daesh dans la région n'est pas, à mon sens, un facteur de rapprochement ou de réconciliation entre les talibans et le gouvernement légal afghan, parce que les causes profondes sont la corruption de l'État afghan, la mauvaise gestion et l'échec de la construction de l'État afghan et la perception par la population, très longtemps après l'intervention militaire aujourd'hui, d'une occupation étrangère.
On reprendra cette question sur l'Afghanistan. Géopolitique, nous retrouvons nos invités Clément Terme, Nicolas Gosset et Jean-Luc Racine dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la menace djihadiste en Asie centrale. Nous retrouvons nos invités, Jean-Luc Racine, directeur de recherche au CNRS, en duplex depuis Bruxelles, Nicolas Gosset, chargé de recherche Eurasie au centre d'études de sécurité et défense de l'Institut Royal de Défense à Bruxelles, et par téléphone depuis Bahreïn, Clément Terme, chercheur à l'Institut International d'études stratégiques. Jean-Luc Racine, est-ce que la menace de Daesh peut conduire d'une certaine manière à la consolidation du processus de paix en Afghanistan?
Je ne crois pas qu'on puisse donner une réponse claire et assurée à cette question, mais c'est évidemment une question légitime, puisque, on l'a dit tout à l'heure, il y a eu des convergences à minima tactiques entre les forces gouvernementales afghanes et américaines d'un côté et les talibans de l'autre dans la lutte contre les noyaux de Daesh. Mais je voudrais quand même rappeler que, au-delà de la surenchère qui peut être faite sur cette menace, l'appel des autorités afghanes à maintenir des forces étrangères s'est fondé aussi sur l'analyse des chefs de guerre américains, en ayant comme cible première, non pas Daesh, mais les talibans montant en puissance ces dernières années. Alors évidemment, dans un tableau de la menace, le fait qu'il puisse y avoir des gens se revendiquant de Daesh, le fait que, si on élargit au-delà de l'Afghanistan, mais le débordement des États d'Asie centrale vers l'Afghanistan est quelque chose de très très probable, c'est que si Daesh s'effondre au Moyen-Orient, le mouvement a déjà commencé, un certain nombre de combattants venus d'Asie centrale, quel que soit leur nombre, qui est sûrement surévalué, comme on l'a dit tout à l'heure, mais un certain nombre de ces combattants vont revenir en Asie centrale et vont déborder, pour une part, entre autres, dans les provinces nord de l'Afghanistan. Donc, la menace existe. Je ne pense pas qu'elle puisse être, pour le moment, suffisante pour être le facteur qui permettrait d'avancer là où les négociations ont été bloquées. J'observe qu'on retrouve très récemment, c'était il y a quelques jours, des processus bien connus. L'annonce que des rencontres secrètes auraient eu lieu entre des émissaires de Kaboul et des talibans, donc pour la première fois depuis le milieu 2015, a été immédiatement démentie par les talibans. C'est un processus absolument classique. Tout ça fonctionne dans l'opacité le plus souvent. Il y a un autre point qui, je pense, mérite d'être mentionné et qui renvoie à la stratégie de Daesh par rapport à l'idéologie des talibans, c'est effectivement le décalage intense qu'il y a entre l'idéologie salafiste pure et dure de Daesh en tant que tel et les talibans. On a eu dans la revue de Daesh Dabiq un article absolument éclairant d'un combattant du Moyen-Orient venu dans les zones tribales pakistanaises, ayant des contacts avec Al-Qaïda, ayant des contacts avec les talibans afghans, qui est sorti de là effrayé par ce qu'il a vu. Il considérait effectivement que ces gens étaient au bord d'être des apostats, des mauvais musulmans, qui ne suivaient pas l'idéologie recommandée. On est dans un cadre dont, pour moi, l'une des interrogations sera de savoir si la décision de Daesh, et là je dis Daesh al-Baghdadi à partir de son bastion moyen-oriental, de créer une province Khorasan, pour reprendre le vieux terme qui désignait en gros un fragment de l'Iran et une partie de l'Afghanistan, mais ce terme de Khorasan a été élargi de façon à englober jusqu'aux marges pakistanaises et la presque totalité de l'Asie centrale, on a là un autre type de récit millénariste qui renvoie à ce que serait l'un des combats de la fin des temps qui se déroulerait non pas à Dabiq, qui vient d'être repris par les forces anti-Daesh au Moyen-Orient, mais dans cette zone du Nord-Afghanistan. Est-ce que ça permettra de cristalliser certaines idéologies où on retrouvera d'un côté le factionnalisme, mais aussi ce que peut être la diffusion qui a commencé dans les milieux afghans urbains et qui pourrait éventuellement s'étendre de courants salafistes qui n'existaient pas dans la tradition afghane?
Alors, la question qui se pose pour aller au-delà est finalement, est-ce que les talibans peuvent être un rempart?
Oui, Jean-Luc Racine. On a eu donc une lettre il faut toujours reprendre l'histoire. On a un double combat. On a un combat d'Al-Qaïda, canal historique avec Al-Zawahiri, qui avait, dès 2005, averti Al-Zarqawi, qui était à la tête d'Al-Qaïda au Moyen-Orient, et qui est en quelque sorte un des ancêtres de Daesh, si j'ose dire, que son ultra-violence médiatisée était un mauvais chemin. Mm. Et on a eu, 10 ans après, une lettre du Mollah Mansour, qui était en théorie le numéro 2 des talibans afghans, mais de facto le numéro 1, puisque le Mollah Omar était mort, mais on ne le savait pas encore, qui a renvoyé dans les cordes, si j'ose dire, Al-Baghdadi, en disant... Ça n'est pas à vous de venir mener le djihad chez nous. Si vous voulez mener le djihad chez nous, ce sera sous notre direction. Sinon, merci de rester chez vous. On a donc à la fois chacun qui défend en quelque sorte sa conception de l'histoire, son idéologie, mais aussi ses objectifs politiques. Entre les talibans afghans qui sont un mouvement d'essence nationaliste, même s'il y a des évolutions, et puis évidemment l'internationalisme d'Al-Qaïda d'un côté, mais l'internationalisme qu'implique le califat d'Al-Baghdadi, qui lui s'appuie, on l'a dit, sur la volonté d'avoir un territoire. On sait que ce territoire est en train de se rétrécir en ce moment.
Nicolas Gossec, Clément Terme, un commentaire ?
Sur les néo-talibans, je voulais dire quelque chose sur les talibans d'aujourd'hui, pour compléter ce qu'a dit Jean-Luc. C'est vrai qu'on voit même une évolution des talibans aujourd'hui, puisqu'ils s'inscrivent dans la dimension nationale afghane, c'est ce qu'Olivier Roy appelle l'islamo-nationalisme. Donc c'est un mouvement qui doit prendre en compte les réalités nouvelles de l'Afghanistan post-2001. Même si tout à l'heure j'ai parlé d'échecs de construction de l'État, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, par rapport à l'éducation des filles par exemple, les talibans auront des difficultés pour revenir en arrière sur un certain nombre d'acquis qui sont aujourd'hui une réalité en Afghanistan parce qu'ils inscrivent leur combat dans le cadre national. À l'inverse, Daesh, puisqu'il y a cette dimension transnationale, pose la question d'une menace globalisée. Et c'est pour ça qu'en fait ça donne une prise aux États pour développer un discours sécuritaire et qui parfois peut aggraver cette menace plutôt que d'y répondre. Et c'est là où la question se pose sur quelle réponse politique à l'émergence de Daesh en Asie centrale, au-delà de la réponse militaire qui est de court terme. Bien sûr que l'État afghan est parvenu à obtenir un maintien par l'administration Obama des troupes américaines qui sont une condition nécessaire pour l'éradication de la menace de Daesh, mais est-ce que c'est une condition suffisante ? Je ne le pense pas. Donc là, on va voir aussi la même question en Asie centrale, avec par exemple un État tadjik qui est un État autoritaire, qui par sa politique anti-islamiste, par exemple l'interdiction des barbes pour les hommes de 20 à 40 ans, peut pousser certains citoyens vers la radicalisation. Donc là, il y a des réponses politiques qui seront différentes à apporter selon si on est russe, chinois ou occidentaux. Et je pense que la stratégie de la Chine et de la Russie, c'est d'intégrer les Occidentaux dans un schéma où ils devraient soutenir des régimes autoritaires en Asie centrale comme seule solution, comme rempart face à l'islamisme. Si on s'inspire de ce qui s'est passé au Moyen-Orient, et notamment avec les printemps arabes, on peut s'inquiéter, puisque c'est vrai que la stratégie occidentale qui a été de soutenir des régimes autoritaires pendant très longtemps au Moyen-Orient a conduit aussi au renforcement de la menace djihadiste. Donc il y a une question politique qui se pose et qui n'est pas résolue dans la région.
Question politique avec effectivement des pays, pour les citer, Ouzbékistan, Kazakhstan, Tadjikistan, Kyrgyzstan, Turkménistan, qui se retrouvent d'une certaine manière, et je vous pose la question Nicolas Gosset, dans la même position que les pays européens qui eux aussi ont vu certains de leurs ressortissants partir faire la guerre en Syrie et en Irak.
Tout à fait. Et la question est d'autant plus intéressante qu'on réalise que dans certaines républiques d'Asie centrale, on nourrit en fait le même type de débat qu'il y a aujourd'hui. Pas de débat, parce que là, disons que la société civile n'a pas voix de cité, mais dans les cénacles du pouvoir, on se pose le même type de questions. C'est intéressant de voir, par exemple, que la République kirghize a passé une loi qui retire la nationalité à ses citoyens qui sont suspectés de revenir de Syrie ou de vouloir combattre aux côtés de Daesh. On a, comme le soulignait Clément, une politique de préemption de la menace Daesh qui est très très forte dans un pays comme l'Ouzbékistan, mais aussi au Kazakhstan, au Tadjikistan, on voit clairement qu'il y a un resserrement de l'espace politique et de la répression qu'on n'avait plus vu depuis, en tout cas en ce qui concerne le Tadjikistan, depuis certainement le milieu des années 2000, et la République kirghize connaît un processus qui est assez inédit. Le point sur lequel je voulais revenir, c'est que je ne suis absolument pas convaincu d'une menace qu'il y a de voir le passage de combattants centra-asiatiques passer vers l'Afghanistan ou l'inverse. Parce que tout simplement, on réalise qu'aujourd'hui, la frontière, l'Amoudaria, et la frontière entre l'Afghanistan et les républiques d'Asie centrale est excessivement sécurisée. Si on pense à la frontière entre l'Afghanistan et l'Ouzbékistan, c'est probablement une des frontières les plus sécurisées au monde. Alors on voit à quel point les États d'Asie centrale disposent d'un appareil législatif très fort. Il est beaucoup plus difficile, à mon sens, de revenir du djihad en Syrie et en Irak vers une république d'Asie centrale qu'il ne l'est probablement aujourd'hui dans certains pays européens. On voit d'ailleurs que les filières de départ des républiques d'Asie centrale vers la Syrie et l'Irak sont des filières qui sont largement indirectes, qui passent par les canaux de la migration de travail vers la Russie, qui passent vers le régime de déplacement sans visa vers la Turquie. Et ça, ça me semble être un élément excessivement important pour comprendre quelle est la source de l'adhésion d'un certain nombre de citoyens d'Asie centrale à la cause de Daesh. On voit que ces gens, en fait, ont un itinéraire de radicalisation qui passe surtout par leur temps de migration en Russie. On sait aujourd'hui qu'un nombre impressionnant de centra-asiatiques, d'ouzbeks, de tadjiks, de kirghizes, plus d'un million et demi pour les ouzbeks seuls vivent en Russie, travaillent en Russie, dans des conditions souvent difficiles. Et donc ça, évidemment, fournit un terrain très fertile parce qu'on a des recompositions de réseaux de jeunes hommes désœuvrés qui sont largement marginalisés dans une société russe dont on connaît la xénophobie par rapport à ceux qu'ils appellent les tchornés, hein, les foncés d'Asie centrale et du Caucase. Ces gens trouvent en Russie finalement un terrain à la transformation de leurs idées qui est vraiment fondamental. Et donc, la percolation de ça, de retour dans les républiques d'Asie centrale, effectivement, existe, mais il faut aussi questionner la proportion de ces gens qui vont effectivement être capables de passer sous le radar pour retourner dans des pays comme l'Ouzbékistan. On sait que les gens n'ont pas encore franchi les frontières, qui sont déjà arrêtés par les services de sécurité, donc tout ça est excessivement compliqué. Quant à imaginer un passage vers l'Afghanistan, moi, j'avoue que j'ai du mal à le concevoir.
Alors, au-delà de cette question de population qui bouge et qui migre, Jean-Luc Racine, on se trouve tout de même là dans une zone géographique absolument immense, avec des pays qui ont pour l'un des points communs cette menace Daesh. Est-ce qu'il y a un minimum de coopération entre, par exemple, l'Afghanistan et les pays purement d'Asie centrale qu'on évoquait tout à l'heure, Ouzbékistan, Kazakhstan, Tadjikistan, Kyrgyzstan et Turkménistan?
Oui, il y a des structures, bon, l'une d'entre elles, la plus large, mais peut-être la moins structurée, c'est ce qu'on a appelé le processus d'Istanbul ou cœur de l'Asie, qui donne lieu à des réunions annuelles avec tous les pays de la région, les Russes, les Chinois, les Indiens, les Occidentaux, un certain nombre d'organismes internationaux. Mais au-delà de ça, il y a des structures beaucoup plus limitées et sans doute plus efficaces. Il y a un dialogue régulier entre le grand think tank afghan et ses confrères d'Asie centrale. Et il y a des discussions structurées, mais comme toujours, des discussions structurées entre pays. Mais bon, il y a eu un moment des rencontres Afghanistan-Pakistan. Aujourd'hui, les relations entre les deux pays sont exécrables. Il y a le rôle que joue la Chine, qui essaie de temporiser, mais qui en même temps préserve les intérêts pakistanais, avec certaines ambiguïtés, mais qui vise plus les gens faisant le djihad contre l'Inde que ce qui se passe en Afghanistan ou en Asie centrale proprement dit. Donc on peut s'interroger sur ce que seront les capacités de la communauté internationale ou des pays de la région. Tout le monde a un œil sur la question. Hein. C'est pas un hasard aussi si les Iraniens ont reçu des émissaires talibans, si les Chinois ont été partie prenante de cette réunion quadripartite qui a avorté mais qui est regroupée de façon intéressante les Afghans, les Pakistanais, les Américains et les Chinois. pour favoriser un dialogue entre le régime de Kaboul et les talibans. Et moi, ce que je veux souligner, c'est que, bien sûr, il est absolument légitime de s'interroger sur ce que peut être la présence actuelle et l'avenir éventuel de Daesh dans la région. C'est un facteur aggravant sur les questions d'insécurité, mais il me semble que pour l'heure, la question majeure reste la question traditionnelle de comment sortir de l'impasse entre la montée en puissance des talibans afghans canal historique, pour reprendre la formule, et du régime de Kaboul, puisque c'est quand même autour de l'Afghanistan que s'est cristallisé depuis 30 ans les différents réseaux. Et on avait eu tout à l'heure un mot sur le Bangladesh. C'est important d'y penser. On a là un pays de plus de 160 millions d'habitants où les gens qui se revendiquent de Daesh au Bangladesh et les gens affiliés à la nouvelle Al-Qaïda dans le sous-continent indien ont été en compétition et ont mené chacun des campagnes d'attentats en juillet dernier. Il y a des potentiels d'expansion, mais tout cela donc mérite d'être continué à observer de très près.
Alors, si je vous ai bien compris, Jean-Luc Racine, la question majeure, la consolidation du processus de paix en Afghanistan, et au-delà de cela, la relation entre l'Afghanistan et le Pakistan, et sans doute aussi entre le Pakistan et l'Inde. Donc, on retombe sur les fondamentaux des grandes problématiques de cette région.
On retombe sur des schémas classiques. Et quand on retombe sur des schémas classiques, la question est toujours la même. C'est est-ce que ces schémas classiques qui perdurent assurément, mais est-ce que cette lecture classique suffit pour comprendre ce qui se passe à l'heure des grands remue-ménages qui secouent le Moyen-Orient et les réseaux qui relient Moyen-Orient, Pakistan, Moyen-Orient, Arabie Saoudite, Moyen-Orient, Asie centrale. Quand je dis Arabie Saoudite, c'est aussi les pays du Golfe. On a intérêt à élargir le spectre pour mieux comprendre ce qui se passe aussi, même s'il faut bien entendu toujours mélanger le regard large avec le regard focalisé sur les réalités de terrain.
Alors, désolé parce qu'il nous manque un peu de temps, mais tout de même, quelques mots de conclusion, Nicolas Gosset et Clément Terme.
Juste un point sur la nouvelle coopération entre la Turquie et la Russie, puisqu'on a vu qu'après l'attentat d'Istanbul, donc au début de l'été, il y a eu beaucoup de combattants de Daesh qui étaient originaires d'Asie centrale. Et ça a entraîné une instrumentalisation de la question de Daesh pour une amélioration des relations russo-turques et une coopération sécuritaire. Et là, je pense qu'il y a un élément important pour régler la question que soulevait Jean-Luc Racine à l'instant, c'est-à-dire la connexion entre l'espace centra-asiatique au sens large et l'espace moyen-oriental. Et donc on voit que la Russie et la Turquie, par leur action contre les réseaux djihadistes, peuvent jouer un rôle majeur, parce que la Turquie s'est engagée maintenant dans la lutte contre Daesh après avoir eu une politique ambiguë. Et on voit aujourd'hui que la Russie peut jouer un rôle, puisqu'il y a une obsession vis-à-vis de cette question en Russie. Peut-être c'est surévalué, mais comme l'a dit Jean-Luc Racine, il y a une réalité aussi de la menace djihadiste qu'il ne faut pas sous-estimer.
Nicolas Gosset.
Qu'il ne faut pas sous-estimer, effectivement, il y a quelque chose d'important qui se joue en Asie centrale, qui est largement différent de ce qu'on voit depuis des décennies en Afghanistan. Alors, vous parliez de consolidation du processus de paix en Afghanistan, encore faudrait-il qu'il commence réellement, parce qu'on est très très loin de dynamique de paix en Afghanistan. La sécurité dans le pays est la pire qu'elle ait été depuis des années. Les talibans contrôlent entièrement au moins 10% du territoire et 20% supplémentaires du territoire sont discutés, et ça, c'est les sources de l'armée américaine qu'il mentionne dans les communiqués du général Nicholson. Donc, on voit que la situation sécuritaire en Afghanistan, indépendamment de Daesh, de sa présence, qu'il faut largement relativiser, reste un enjeu majeur des affaires internationales. On a tendance à oublier les enjeux du conflit afghan, ils vont nous poursuivre encore pendant des années.
Je pense que Jean-Luc Racine acquiescera là-dessus, je suis désolée parce que le temps nous manque, Nicolas Gosset.
Eh bien, j'en resterai là-bas.
Merci. C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités, Nicolas Gosset qui justement était en duplex avec nous depuis Bruxelles. Nicolas Gosset qui est chargé de recherche Eurasie au Centre d'études de sécurité et défense de l'Institut Royal de Défense à Bruxelles. Par téléphone depuis Bahreïn, Clément Terme, chercheur à l'Institut International d'études stratégiques, et avec moi en studio, je vous en remercie particulièrement, Jean-Luc Racine, directeur de recherche au CNRS. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, également sur Facebook, Géopolitique Le Débat, émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Demain, Géopolitique sera consacrée à un important chapitre de la politique étrangère de Barack Obama, la question cubaine.